Vous écoutez Art District et tout de suite la chronique Muse et Mécène d'Anne Serin-Reil vous fait découvrir des hommes et des femmes qui ont marqué à leur manière l'histoire des arts.
Christian Zervous est critique d'art et l'éditeur de la revue Cahiers d'art, paru entre 1926 et 1960. Cet homme discret joua un grand rôle dans la circulation des œuvres et des idées pendant l'entre-deux-guerres et proposa, selon la critique d'art Vanessa Morisset, une autre manière de concevoir l'histoire de l'art. Zervous est né en 1889 à Argostoli, en Grèce. Après avoir passé son enfance à Alexandrie et à Marseille, il s'installe à Paris en 1907. Il fait des études de philosophie et soutient en 1918 une thèse de doctorat sur un philosophe néoplatonicien du XIe siècle. Pendant ses études, il se lie d'amitié avec Jean Badovici, futur architecte et éditeur du magazine L'Architecture Vivante. En 1923, à l'âge de 34 ans, il entre aux éditions d'art Morancet et collabore à la publication de deux périodiques, L'Art d'aujourd'hui et Les Arts de la Maison. Puis, il choisit de prendre son indépendance. En 1926, il fonde les Cahiers d'art. Christian Zervous en est le principal acteur, intervenant de la rédaction à l'impression, qu'il suit avec beaucoup d'attention. 97 numéros paraîtront entre 1926 et 1960 et marqueront durablement l'histoire de l'art du XXe siècle. Les contenus des cahiers d'art s'articulent essentiellement autour de deux pôles, les arts archaïques et primitifs d'une part, et les arts modernes et contemporains d'autre part. Les articles de critique d'art sont complétés par des textes plus littéraires et poétiques. Si Zervous innove par ses choix typographiques et la mise en page privilégiant la clarté et la fluidité de lecture, il crée un véritable précédent grâce à l'iconographie et contribue à instaurer une pratique de l'histoire de l'art non plus centré sur les artistes, mais sur les œuvres elles-mêmes. Certains numéros deviennent de véritables dossiers iconographiques. Ainsi, les cahiers d'art de 1948 sur Picasso et les céramiques comportent à lui seul plus de 400 reproductions. Zervous travaille beaucoup avec Man Ray, et certains des reportages photographiques sont devenus des classiques, tels celui de Marc Vaux dans l'atelier de Giacometti en 1932 ou encore celui de Dora Maar montrant Picasso peignant Guernica au jour le jour. Ces reportages contribuent à diffuser le travail des artistes, voire même à les inspirer. Ainsi, à la lecture des cahiers, l'Américain David Smith prend conscience des nouvelles voies de la sculpture. « Je peignais depuis peu de temps, quand je suis tombé dans Cahiers d'art, sur des reproductions de Picasso et de Gonzalez qui m'ont fait comprendre que l'art pouvait être fait avec du fer. Or, pour moi, la ferronnerie n'était qu'un métier. L'art, c'était la peinture à l'huile. » Zervous signe des comptes rendus d'expositions sur la peinture, la sculpture et l'architecture de son temps, mais aussi des réflexions critiques sur des œuvres plus anciennes ou sur les arts africains et océaniens. Il travaille au plus près des artistes et fait volontiers appel à eux pour qu'ils lui soumettent des contenus. Il fait appel à des poètes comme Robert Desnos, Paul Huard ou René Char. Il publie des textes remarquables d'Antonin Artaud, Georges Bataille ou d'André Breton, ou encore « Le papier collé et le proverbe en peinture » de Tzara, ou « La peinture des Van de Velde et le monde et le pantalon » de Beckett, sans oublier les poèmes de Picasso révélés en 1936. Zervous fait également appel à des critiques d'art comme Ville Gromann, à des critiques d'architecture comme Siegfried Giedon, ou encore à des acteurs institutionnels comme James Johnson Sweeney, conservateur au MoMA à New York. Diffusé dès ses débuts en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis, avec une cinquantaine de pages par numéro, contribuant au rayonnement de l'art à Paris dans le monde, Cahiers d'art est l'une des revues d'art françaises les plus accomplies jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Même si elle est concurrencée dès 1929 par la revue Documents de Georges Bataille, par Minotaure, créée en 1933, ou par Verve, conçu par Terriade, ancien collaborateur de Zervous, dont le premier numéro paraît en 37, Cahiers d'art parvient néanmoins à s'inscrire dès les années 30 en tant que référence auprès des marchands, des collectionneurs et des critiques. Cependant, de nature discrète et rétif aux mondanités, Christian Zervous ne facilite pas les choses et sa revue connaît des difficultés. Sa rencontre avec Yvonne, qu'il épouse en 1932, sera déterminante. Les cahiers d'art s'installent rue du Dragon, tout près de Saint-Germain-des-Prés, et dès 1934, une partie de l'espace est consacrée à des expositions. Le couple met en avant de nombreux artistes dont parlent les cahiers, comme Braque, Matisse, Léger, Kandinsky, sans oublier les maquettes d'architecture de Charot, Le Corbusier ou Paul Nelson. En 1936, ils apportent leur soutien aux républicains et espagnols en organisant une exposition parmi lesquelles participent Miro et Picasso. Quand cela s'avère nécessaire, les Hervos cherchent d'autres espaces, comme pour l'exposition de 1937, Origine et développement de la peinture internationale contemporaine, qui se tient au Jeu de Paume et constitue la première occasion pour le public de voir un ensemble de ce qui constitue aujourd'hui l'histoire de l'art moderne. L'architecture prend une part importante dans les cahiers d'art. Christian Zervos défend la candidature de Le Corbusier au concours du Palais des Soviets à Moscou au début des années 30. En 1933, le couple Zervos accompagne l'architecte à Athènes pour le 4e SIAM, Congrès international d'architecture moderne. C'est d'ailleurs pendant le trajet entre Marseille et Athènes que sera rédigée la charte d'Athènes, précisant les contours de la ville fonctionnelle telle que la conçoit Le Corbusier. Les Hervos se lient également avec Alvar Aalto, qui collaborera longtemps avec eux, surtout avec Yvonne, qui au début des années 40 se lie avec lui dans l'édition du Mobilier Design. Yvonne ouvre la galerie May, meubles, architecture, installation, afin d'exposer leur travail ainsi que des œuvres d'art. Zervos s'intéresse à l'art contemporain dans son ensemble, mais certains artistes retiennent particulièrement son attention, et notamment le groupe des surréalistes et les tenants de l'art abstrait. Il entretiendra pendant longtemps une relation privilégiée avec Pablo Picasso, qu'il rencontre en 1926, Kandinsky, Klee, Matisse, Léger, Man Ray et Calder. Zervos s'intéresse particulièrement au Bauhaus, installé depuis peu à Dessau. Il tient régulièrement la chronique des événements qui s'y déroulent, et en janvier 1928, se rend en Allemagne afin de rencontrer Klee et Kandinsky, tous deux alors enseignants au Bauhaus. Zervos écrit à Kandinsky dans une lettre qu'il lui adresse en 1928 « Je voudrais que les préjugés qui séparent l'œuvre des artistes des deux pays disparaissent et organiser des expositions à Paris et à Berlin. » Peu après leur rencontre, les deux hommes échangent une correspondance régulière, s'informant mutuellement de l'activité artistique de leur pays. Comme le précise Christian Derouet, si Klee est apprécié des milieux parisiens, il n'en est pas de même pour Kandinsky. Zervos décide de le soutenir. En 1931, il rédige une monographie qui fait suite à celle de Klee parue 2 ans plus tôt. La même année, Zervos lance une grande enquête sur l'art abstrait à laquelle il consacre 6 numéros des cahiers d'art. Kandinsky est invité à s'exprimer aux côtés de Mondrian, Léger et Harpe. Plusieurs expositions sont également consacrées à son œuvre. Christian Zervos soutiendra toujours Fernand Léger, auquel il consacre monographie et articles. Jusqu'au dernier numéro de Cahiers d'art, Zervos lui reste fidèle et publie un article sur l'ouverture en mai 1960 du musée Fernand Léger à Biot. Très attaché à la sculpture, Zervos soutient également Alexander Calder, chez qui il reconnaît un immense artiste. Il publie un éloge de ses mobiles en 1939 et lui consacre une exposition en 1954, dans laquelle un mobile est suspendu au plafond de la galerie. Resté dans la collection personnelle des Zervos, il est aujourd'hui l'une des pièces conservées au musée Zervos de Vézelay. Mais il est impossible de parler de Christian Zervos sans aborder la relation avec Pablo Picasso. Les deux hommes entretiendront une relation riche et houleuse toute leur vie. Admiratif de l'art de Picasso, Zervos fit rapidement de lui l'artiste central de la revue et décide d'établir le catalogue raisonné de son œuvre. 22 volumes paraissent du vivant de Zervos entre 1938 et 1970, auxquels il faut ajouter 11 volumes postérieurs. Des monographies et des articles sont régulièrement consacrés au maître. Dans un numéro de 1935, Zervos publie une conversation avec Picasso dans laquelle le peintre explique sa manière de réaliser des tableaux. Fait exceptionnel dans la revue, ce numéro contient également une planche en couleur. De nombreuses expositions de la galerie Cahiers d'art et à la galerie May lui sont consacrées. La dernière aura lieu en 1970 au Palais des Papes à Avignon. La Seconde Guerre mondiale met un coup d'arrêt à l'activité des cahiers d'art. Christian Zervos est déchu de la nationalité française par le gouvernement de Vichy. Il quitte Paris pour s'installer dans sa maison de Vézelay, acquise quelques années plus tôt grâce à Badovici. Il s'engage avec Yvonne dans la résistance, servant d'agent de liaison entre Paris et le maquis local. Les parutions des cahiers d'art reprennent en 1945, mais à un rythme moins fréquent, avec un numéro annuel jusqu'en 1960. En 1946, les Zervos se rendent chez René Char, près d'Avignon. Lors de ce séjour, ils décident de lancer l'idée d'une semaine d'art Et pendant l'été 47, Jean Villard présente trois créations dramatiques dans la cour d'honneur du Palais des Papes et les Hervos, une importante exposition réunissant les grands noms de la création contemporaine tels que Picasso, Matisse, Braque, Léger, Chagall, Bronner, Klee, Kandinsky, Miro et Giacometti. C'est la naissance du Festival d'Avignon. Parallèlement, les conditions économiques ont changé. L'Allemagne, principal relais de la revue à l'étranger, s'est effondrée. La création et le marché de l'art se déplacent aux États-Unis, ce que Zervos n'a pas anticipé. Il met fin aux parutions des cahiers d'art en 1960 pour se consacrer à une série d'ouvrages archéologiques consacrés à l'art des civilisations méditerranéennes du Néolithique à la Grèce du 8e siècle avant notre ère et surtout au catalogue raisonné de l'œuvre de Picasso. Quant à la galerie, elle soutient un certain nombre d'artistes, Brunner, Fernandez, Domela, Magritte, dans leur traversée du désert. Elle soutient le retour à la figuration d'un Hélion ou d'un Gaston-Louis Roux. Elle découvre les peintres Philippe Bonnet et le sculpteur Sklavos. Toujours très internationale, elle accueille les Américains Reichek et Marie Calery, l'Allemand Werner, la Norvégienne Bergman, l'Italien Corpora et bien d'autres. Les artistes et les écrivains qui ont intégré les cahiers d'art sont ceux qui ont marqué le XXe siècle. Et la collection d'œuvres réunies par le couple, désormais présentée dans l'ancienne maison de Romain Rolland à Vézelay, paraît aujourd'hui une anthologie de l'art du siècle dernier. Les Hervos décèdent tous les deux en 1970, après avoir légué tous leurs biens à la commune de Vézelay. En 1978, grâce à Mila Gargarine, le catalogue Picasso, fort de ses 33 tomes, est achevé. Yves de Fontbrune acquiert la maison d'édition et fait un don permettant la création du fonds cahier d'art. Il représente aujourd'hui l'un des plus importants fonds conservés à la bibliothèque Kandinsky, composé essentiellement de 15 000 clichés, offrant un témoignage inestimable sur la création du XXe siècle. À ceci s'ajoute toute la correspondance de Zervos, ainsi que les documents commerciaux, renseignant très précisément sur le fonctionnement d'une maison d'édition durant l'entre-deux-guerres. Comme le souligne Yves de Fontbrune dans l'ouvrage de Christian Derouet intitulé « Zervos et cahiers d'art », ces archives pourraient apporter une contribution tant à l'histoire de l'art à Paris au cours des années 30 et 40 qu'à celle restant à écrire de l'un des acteurs importants de cette même histoire, Christian Zervos, qui appartient à cette génération d'éditeurs, Thériades, Skira, Iliades, qui firent de Paris le phare de l'édition d'art et soutint tant d'artistes.
C'était Muse et Mécène, la chronique d'Anne Serin-Reil sur Art District. À retrouver tous les mardis et jeudis à 7h30 et 13h30.